Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'Anthropocène mise en carte. C'est l'objectif que se sont fixés François Gemen et Alexander Rankovitch dans un atlas paru aux presses de Sciences Po. Alors que l'Australie brûle et que la décennie 2010 se termine sur une nouvelle série de catastrophes dites naturelles, la responsabilité humaine n'est plus en débat. On tentera d'en prendre la mesure avec François Gemen qui sera notre invité à 12h55. Mais avant cela, place à la musique, celle de Charlie Chaplin, à qui la Philharmonie de Paris consacre une exposition. Si ce grand génie du premier âge du cinéma est associé à ce qu'on appelle improprement le muet, il pratiquait en réalité un art bien sonore, fondé sur le rythme et la danse. Pour en parler, l'un des meilleurs spécialistes de Chaplin, restaurateur de films et pianiste, Serge Brombert, est notre invité jusqu'à 12h30, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Raphaël Bourgois.
Signora Pilatine, voulez-vous la texte timide? Le junta sous la cita. Tula, 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 wa. Monti si le mora, le son ti a sucre vora, le zonche comme sore, c'è la pozza ti la tua.
Bonjour Serge Brombert.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes le président fondateur de Lobster Film, spécialisé dans la restauration des films rares, historien du cinéma, responsable avec Éric Lange de la restauration des courts-métrages de Chaplin antérieurs à 1918. Vous êtes enfin responsable des contenus audiovisuels du Chaplin's World, le musée qui a été créé à la mémoire de l'œuvre de Charlie Chaplin et qui est établi en Suisse dans son manoir, là où il a habité pendant un certain nombre d'années, à Corsier-sur-Vévey. Vous êtes aussi pianiste et vous accompagnez la projection de films comme encore récemment, je crois que c'était dans le cadre de du festival Lumière, le trois courts-métrages mythiques de Chaplin, Charlot, chef de rayon, Les Migrants ou encore Charlot s'évade. Enfin, dans le cadre de l'exposition sur Chaplin, Chaplin l'homme orchestre, présenté du 11 octobre au 26 janvier, vous présentez une ciné-conférence sur Charlot face à son univers sonore.
Mais vous êtes incroyablement informé.
Mais oui, écoutez, on essaye ici à la radio d'être bien informé, surtout de bien présenter à nos auditeurs, nos invités, pour ceux qui ne vous connaîtrez pas, puisque c'est vrai que vous êtes un peu celui qu'on invite le plus souvent sur Charlot, sur Charlie Chaplin, Serge Brombert depuis un certain nombre d'années, puisque vous en avez véritablement fait votre objet d'étude, pas que, hein, puisque vous êtes aussi un grand spécialiste des films rares, mais c'est vrai que je crois pas vous avoir souvent entendu sur cette dimension musicale, sur Charlie Chaplin, musicien. Quel type de musicien était-il ?
Un musicien, je crois que le mot qui s'impose, c'est intuitif. La réalité, c'est que Chaplin est intuitif en tout et absolument inspiré, génial. Je crois que le mot correspond à la personne en à peu près tout. Il n'a jamais appris la mise en scène et le cinéma, et pourtant il a inventé un cinéma bien à lui. Et pour la musique, c'est à peu près pareil. Il faut comprendre que Chaplin n'a pas eu d'éducation. Il vient des faubourgs de Londres et quand il arrive aux États-Unis, il a encore un très fort accent qu'il ne se voit pas au cinéma, puisque le cinéma à l'époque ne parle pas, évidemment, il est toujours muet, mais en réalité, il va apprendre sur scène, il va apprendre au contact avec le public comment le satisfaire et comment exister, comment créer son personnage. Pour la musique, c'est à peu près pareil. Chaplin, un peu comme Django Reinhardt, est un intuitif. Il ne sait pas lire le solfège, comme Django Reinhardt n'avait jamais appris à lire le solfège ou à jouer de la guitare, et pourtant, il était Django Reinhardt. Eh bien, Chaplin, c'est la même chose, il n'a jamais appris la musique, et pourtant, il sait que pour réussir déjà à collecter quelques sous en jouant du violon dans les rues pour essayer d'attirer le monde, il faut qu'il sache jouer d'un instrument de musique. Donc quelque part, il va s'acheter au début un tout petit violon, puis après il va s'acheter un violon.
Il pratique plus de 4 heures par jour.
Ça c'est ce qu'on dit. Alors il faut dire que la plupart des choses que l'on sait de Chaplin ont été racontées par Chaplin lui-même. Donc c'est toujours difficile de trier le bon grain et l'ivraie. Mais on sait une chose, c'est le témoignage de sa double. pure. Lorsque Chaplin est parti pour sa première tournée aux États-Unis avec la troupe Carnot, il avait sa doublure de scène qui s'appelait Arthur Jefferson, qui plus tard fera carrière sous le nom de Stan Laurel, de Laurel et Hardy. Et donc ces deux-là partageaient une petite chambre. Et Laurel disait que lorsque Chaplin commençait à répéter, il était obligé de sortir de la pièce tellement c'était insoutenable. Donc voilà, il n'empêche que Laurel n'a jamais rien fait en matière de musique et que Chaplin est devenu de facto un immense musicien.
Oui, parce que ce qu'on sait aussi, c'est que Chaplin composait la musique de ses films. Et puis là, on vient de l'entendre, hein, la musique, la nonsense song, la chanson qui n'a pas de sens, puisque les paroles
en français,
les paroles ne veulent rien dire. Cette chanson qu'on retrouve dans les temps modernes, qui est très iconique des temps modernes, c'est la première fois qu'on entend sa voix et on entend bien qu'il sait chanter.
Alors, on entend bien qu'il sait chanter. C'est lui qui a eu l'idée de cette mélodie, etc. Le processus créatif musical chez Chaplin est assez complexe. La réalité, c'est que jusqu'à la fin du muet, Chaplin ne compose pas de musique pour ses films, parce que très rares sont les films qui peuvent se permettre d'avoir une musique composée ad hoc et qui corresponde à l'image. Faut dire aussi que la plupart des cinémas n'ont pas d'orchestre entraîné, ont en général un pianiste ou quelque chose comme ça, et donc pour faire circuler les films, on donne à l'époque ce qu'on appelle des recommandations musicales. On dit sur telle séquence jouer à telle mélodie connue. En général, c'est des patchwork de mélodies connues, de thèmes connus, ce qui permet aux gens qui, aux petits pianistes qui ne sont pas non plus formés, de pouvoir suivre à peu près les instructions du réalisateur. Et puis quand le cinéma devient sonore, la première conséquence de l'arrivée du cinéma sonore, c'est qu'on découvre que le cinéma d'avant était muet. Le cinéma muet est une expression qui date de l'invention du cinéma sonore. Avant, on parlait simplement de cinéma. Et il y avait les films muets, il y avait la musique. Bon, on n'allait pas écouter un orchestre, on allait voir un film. À partir du moment où on enregistre une bande-son correspondant à un film, il y a évidemment des paroles. Que doit dire le personnage de Charlot ? Et puis il y a aussi de la musique. Le premier film d'ailleurs qui pose cette question, qui est le premier film sonore de Chaplin, s'appelle Les Lumières de la Ville. Chaplin commence en 1928 à imaginer son film comme un film muet, et puis le cinéma sonore arrive et s'impose. Dès lors, que faire ?
Dans Les Lumières de la Ville, il y a évidemment cette question de la musique, mais il y a aussi l'utilisation d'effets sonores. Vous parlez des Lumières de la Ville, des effets sonores qui... comment dire, soulignent ou font même gag en eux-mêmes. Je propose d'entendre la scène introductive, le fameux discours du maire. Le maire dans les graves, sa femme dans les aigus, évidemment. Je crois que c'est un saxophone qui fait la voix, on va dire.
C'est un casou. Oui, c'est un petit truc avec une membrane qui vibre. Enfin, l'effet est celui obtenu par les casous traditionnels. Alors, la réalité, c'est qu'il y a deux choses dans cette bande-son. Il y a la musique derrière, qui est de Chaplin, et il y a l'idée de dire, ben voilà, le cinéma était muet, aujourd'hui tout le monde veut du sonore, il veut entendre les gens chanter, il veut les entendre parler, c'est talking, 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 et moi je suis Chaplin, même si je mets 2 ans à faire mon film, même si le cinéma muet, plus personne n'en veut, je vais donner aux gens un film formidable, où il y aura de la musique, où il y aura du son, mais où il n'y aura pas de parole. Et on voit déjà une première démarche de Chaplin, qui compose sa bande-son, exactement comme si c'était de la musique. Il y a une sorte de cocktail entre les deux. Chaplin, quelque part, crée une richesse de sa bande-son qu'on ne trouve pas à l'époque dans les films traditionnels, parce que les films traditionnels se contentent de faire parler des gens sous un micro, et ça suffit.
Oui, donc il y a cette bascule aux alentours de l'année 1927, les Lumières de la Ville, ça arrive un petit peu après. Il y a cette résistance donc de Charlie Chaplin au parlant et non pas au sonore.
Chaplin a un autre problème. Chaplin est universel. Chaplin parle toutes les langues puisque on est dans le cinéma muet. Au moment où le cinéma devient sonore, le doublage n'existe pas encore. Comment faire pour que Chaplin puisse parler au monde entier sans avoir à déroger à cette question-là? Donc du coup, il décide d'utiliser des onomatopées, ce qui lui permet de rester international. Et il va presque suivre cette voie-là dans son deuxième film qui lui sonore, qui lui arrive très longtemps après, on est en 1936, donc là, ça fait 9 ans que le cinéma sonore a été, et parlant a été inventé, et pourtant, dans les temps modernes, Chaplin renonce encore à parler. Voilà, les autres parlent, le patron parle, mais lui ne peut pas articuler des mots parce qu'il n'a pas encore résolu cette équation de comment rester universel en articulant une idée.
Charlot reste donc muet. Chaplin, lui, reprend avec cette possibilité d'avoir recours au son. Il reprend évidemment d'anciens films aussi, c'est ça, pour lesquels il recompose des bandes sonores. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les cinémas avaient un peu la liberté. Les cinéastes n'avaient pas la maîtrise de la musique. C'est aussi fou que ça puisse paraître, de la musique sur leurs films. C'était donc les cinémas, en quelque sorte, qui choisissaient avec quelques indications que vous l'avez indiquées. Là, Charlot...
Pour certains films, mais très rare, il y avait des compositions intégrales. Il y avait des auteurs comme Hugo Riesenfeld, qui était un grand spécialiste de ça, et qui composait des musiques pour les films. Mais c'était vraiment rarissime, et la plupart des films n'investissaient pas dans des compositions très coûteuses, pour des orchestres extrêmement aléatoires. Si le film faisait un bide, vous imaginez ce que c'est d'avoir un orchestre qui a été entraîné pendant des jours et des jours pour que le film ne passe pratiquement jamais.
Et donc là, Charlie Chaplin reprend malgré tout d'anciens films pour lesquels il signe des nouvelles bandes originales.
L'histoire de Chaplin, de l'illustration musicale des films muets de Chaplin est un peu plus complexe que cela. C'est-à-dire que Chaplin fait tous ses films muets jusqu'en 1928, et puis il va passer au sonore, et en 1941, il se dit « mais finalement, tous mes films muets sont pratiquement invisibles parce qu'ils sont muets, pourquoi ne pas leur donner une piste son ?» Et le premier film qu'il va adapter au cinéma sonore, c'est un film qui s'appelle La ruée vers l'or, qui datait de 1925. Il va composer une musique pour ce film, il va supprimer les cartons, il va rajouter une narration omniprésente, aujourd'hui presque gênante d'après les standards actuels, où il va raconter tout ce qu'on voit. Oh, voici le vagabond. Oh, mais attention, voici un ours derrière toi, vagabond. Enfin bref, et c'est lui qui parle évidemment tout le temps. Et ceci va lui donner l'idée de ressortir progressivement tous ces films muets. Et donc, à partir des années 50, il va avoir sa carrière en tant que réalisateur va se ralentir et il va consacrer de plus en plus de temps jusqu'à la fin de sa vie à donner une bande son moderne à ses films des premiers temps, à ses premiers longs métrages des années 20.
Oui, puisque la ruée vers l'or, c'est 1925, et il va composer, diriger, même enregistrer avec l'orchestre d'Eblimann un certain nombre de musiques, enfin les musiques de ce film. C'est en tout cas ce qu'on apprend dans cette exposition à la Philharmonie de Paris. Serge Brambert, je suis sûr que vous le saviez avant. Juste un mot quand même sur cette utilisation de la musique. J'ai pu lire que on a parlé de ces années avec Fred Carnot, qui est donc cet impresario de music hall britannique qui l'emmène en tournée aux États-Unis, s'en suivra la carrière à Hollywood qu'on connaît. Il avait fait du cinéma à la Keystone auparavant, Charlie Chaplin. J'ai pu lire que, selon Fred Carnot, la musique ne doit pas concurrencer le comique de l'image, mais plutôt être un contrepoint gracieux et envoûtant. Vous diriez que c'est ça qui dirige l'approche.
Alors, il faut comprendre que Chaplin est arrivé comme un météore chez Carnot. Carnot, c'était une troupe de comédiens. On est au milieu des années 1900, donc longtemps avant la guerre. Et nous sommes sur les scènes anglaises. Et à l'époque, on n'entend pas très bien ce qui se passe dans les théâtres. L'acoustique n'est pas bonne. Et la troupe Carnot, c'est les Silent Comedians. Donc c'est une troupe qui est presque une troupe de pantomime. C'est là où Chaplin apprend le public, là où il apprend le slapstick. Mais là, il apprend aussi l'importance d'un orchestre qui vient en quelque sorte accompagner ce qui se passe. Mais globalement, ce qui compte, c'est la pantomime, la gestuelle des comédiens. Ce qui fait de ces comédiens des candidats idéaux pour se lancer dans le cinéma au milieu des années 10. Donc effectivement, la musique chez Carnot est relativement peu importante, sauf pour les numéros strictement musicaux, mais il y en a relativement peu. On fait plus du patin à roulettes, du jonglage, des animaux, du vélo, des choses comme ça.
Alors, il y a chez Charlie Chaplin, évidemment une pratique de la musique, on l'a dit, composée, mais si on décompose l'essence même de la musique, à savoir le rythme par exemple, c'est évidemment très très important, c'est central, dans même à l'époque dite muette des films de Charlie Chaplin, donc le rythme évidemment, et aussi le fait que Charlot c'est un corps dansant, et donc la musique est toujours présente.
Oui, c'est Nijinsky qui avait dit à Chaplin, mais vous n'êtes pas un acteur, vous êtes un danseur. Ce qui évidemment avait fait très plaisir.
Surtout venant de Nijinsky, oui.
Surtout venant de Nijinsky. Oui, la musique, disons que la musique ne fait pas partie du paysage cinématographique de Charlie Chaplin jusqu'à l'arrivée du cinéma sonore. Avant, c'est quelque chose de relativement secondaire. Il participe aux préconisations musicales, mais globalement, il est trop concentré sur la fabrication de ses propres films. C'est vrai que à partir des Lumières de la Ville, où il va choisir en plus une musique de Padilla qui s'appelle La Violettera, qui est un air très connu à l'époque, qui est l'une des seules fois où il va emprunter un air connu, parce qu'évidemment, La Petite Marchande de Violette, ça s'impose. Au-delà de ça, Chaplin va commencer à concevoir ses films avec la musique. C'est absolument surréaliste d'être à l'intérieur du cerveau de quelqu'un qui non seulement est l'acteur principal, mais le réalisateur, le monteur, le producteur, le musicien, et qui fait sa promo comme personne. Donc, accessoirement, l'homme le plus célèbre au monde, ce qui quand même aide beaucoup. Mais c'est phénoménal de voir comment son cerveau non entraîné a réussi à intégrer de manière, mais pratiquement parfaite, la totalité de ses dimensions. Quand, dans les temps modernes, Chaplin se dit « je ne peux pas parler, mais il faut pourtant que les gens entendent ma voix », il a cette idée de cette musique qu'on a entendue au tout début de la séquence, ça s'appelle Titine, où Chaplin arrive sur une scène de restaurant, il doit chanter les paroles d'une chanson, mais il ne les a pas mémorisées, alors il les écrit sur ses manchettes, et le premier geste qu'il fait, c'est une sorte, il écarte les bras en signe de hurrah ou de bienvenue, et là les deux manchettes volent et disparaissent, et au moment où il doit commencer à chanter, oh, les paroles ont disparu. Et il va commencer à faire ce wabash wabash absolument incroyable. Une fois de plus, Chaplin va remporter son pari. On va entendre sa voix. Il va nous dire des choses, mais il ne va pas utiliser des mots.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Midi 20 sur France Culture, vous écoutez La Grande Table, une émission avec Serge Brombert consacrée à Charlie Chaplin, l'homme orchestre musicien à l'occasion d'une exposition à la Philharmonie de Paris. Et vous venez de parler évidemment, Serge Brombert, de la nonsense song qu'on a entendue en début d'émission. Il faut parler d'une autre musique, c'est celle des Feux de la Rampe, qui est un film qui est sorti après la guerre, puis qui est ressorti au début des années 70, et qui vaudra le seul Oscar reçu par Charlie Chaplin, hormis des Oscars d'honneur évidemment, mais le seul Oscar reçu, c'est pour la meilleure musique de film. Cette musique, je vous propose de l'écouter.
Thank you.
La musique donc des Feux de la Rampe, Serge Brombert, est-ce qu'il n'y a pas quand même comme une ironie de voir que le seul Oscar reçu par Charlie Chaplin, ce soit donc pour un film parlant, un film qui signe les adieux en quelque sorte de Charlie Chaplin à son personnage fétiche de Charlot, et donc pour une musique?
Alors, je suis sûr qu'il a dû adorer ça. Mais bon, Chaplin était tellement vénéré par dans le monde entier qu'il était un peu au-delà de ça. Non, c'est Petits Chaussons de Satin Blanc, qui est une musique qui a été reprise après et qui est devenue presque un standard, de la même manière que la musique des temps modernes ou des choses comme ça, montre à quel point Chaplin était un mélodiste foudroyant. La manière qu'il avait de composer ses musiques était, comme je vous l'ai dit, un petit peu unique, au sens où la musique, il l'entendait dans sa tête, mais il était pas incapable, parce que il savait jouer du piano à peu près, mais pour orchestrer une musique, c'est
ce que j'allais vous dire, parce qu'on entend, il y a de la harpe, il y a des cordes, il y a tout un orchestre symphonique derrière.
Absolument, et donc la mécanique était toujours la même. Chaplin s'asseyait à son piano et jouait pour un arrangeur musical les musiques qu'il souhaitait entendre sur ses films, et ensuite c'était les arrangeurs musicaux qui donnaient à la mélodie et aux harmoniques simples de Chaplin cette complexité qui fait qu'une musique de film est une musique de film qui fonctionne.
Les arrangeurs qui changeaient à chaque fois, ou
les arrangeurs changeaient à chaque fois. C'était, enfin, disons qu'il y en a certains qui ont fait deux films. Mais enfin, en gros, Chaplin tenait à ce que ce soit une musique de Charlie Chaplin. C'était évidemment très important. Et d'ailleurs, il y a une chose assez étonnante, c'est que dans ses dernières volontés, Chaplin a demandé à ce que ses films muets ne soient joués qu'avec sa musique. Chose qui est évidemment tout à fait respectée par la famille et l'association Chaplin. Peut-être, probablement, pour ne pas dénaturer, ne pas voir ces films muets accompagnés avec des musiques rock ou avec des musiques contemporaines atonales qu'il n'aurait pas approuvées. Donc le seul moyen d'être certain qu'il approuvait la musique, c'était que ce soit sa musique et uniquement sa musique qui soit jouée avec ses films muets. C'est très étonnant.
Alors justement, Serge Brombert, quelle place on peut lui donner à Charlie Chaplin dans l'utilisation de la musique, de ce qu'on appelle aujourd'hui les bandes originales de films, qui sont devenues très très importantes évidemment. Maintenant, on connaît un certain nombre de compositeurs comme Alexandre Desplat en France, par exemple, qui font un travail exclusivement presque sur cette composition de musique de film. C'est un genre à part entière. Chaplin, il est à l'origine du cinéma, il est donc aussi à l'origine de cette question des bandes originales de films.
Ah, mais clairement, ce n'est pas un hasard si l'exposition à la Philharmonie s'appelle L'Homme Orchestre. C'est quelqu'un qui faisait autant pour ce qu'il y avait à voir sur l'écran que ce qu'il y avait à entendre dans la salle de cinéma. Donc il a pensé, il a réfléchi cette complexité, cette imbrication complexe entre une musique et une image. Évidemment, une mauvaise musique peut gâcher une bonne réalisation, la sauver, c'est plus difficile. Donc Chaplin tenait, mais n'a jamais composé pour d'autres réalisateurs, il voulait être son propre compositeur, parce que quand on ne marche qu'avec ses deux jambes, on n'emprunte pas la jambe de son voisin. Et je crois que il a poussé la réflexion dans le sens de son cinéma, de sa propre mise en scène. Je ne suis pas du tout certain que Chaplin aurait été un bon musicien pour le film d'autres personnes. Par contre, nul mieux que Chaplin était à l'intérieur du cerveau de Chaplin pour essayer de recréer cette impression complexe qu'obtient un spectateur.
Alors Serge Brombert, vous venez de parler de l'imbrication entre l'image et la musique. Je le disais en ouverture d'émission, vous dirigez et vous avez créé Lobster Film, qui est une entreprise de restauration de l'image, mais vous avez aussi...
Et du son.
Et donc voilà, et donc vous avez aussi cofondé avec le laboratoire Éclair Le Diapason, qui est un laboratoire de restauration sonore. Et donc on connaît un certain nombre des enjeux qui sont liés, vous êtes venu en parler plusieurs fois à cette antenne, des enjeux liés à la restauration de l'image. Faut-il restaurer, jusqu'où, quand on a une image de bonne qualité mais tronquée, est-ce qu'il vaut mieux cela qu'une image de mauvaise qualité mais entière? Bref, tout ce travail que vous avez mené notamment sur les courts-métrages de la Keystone. Qu'en est-il du son? Quels sont les enjeux, selon vous, les grands enjeux de la restauration sonore aujourd'hui?
Bien, les grands enjeux de la restauration sonore, en fait, c'est très étonnant parce que une bonne restauration sonore fait énormément pour un film. Par contre, vous savez, quand vous regardez la télévision, de temps en temps, vous avez l'impression que sur des films anciens, le son est un peu sourd, qu'on n'entend pas très bien, qu'il faut pousser le son, qu'on n'entend plus trop les fonds d'air, on n'entend plus tout ça. Et en réalité, c'est lié à des mauvaises restaurations sonores. La restauration sonore est très complexe et elle joue pour plus de la moitié dans le sentiment qu'un film est vieux ou qu'il ne l'est pas. Ce que vous avez joué tout à l'heure comme la musique de Limelight, des Feux de la Rampe, est en réalité une restauration que nous avons faite pour l'association Chaplin et pour MK2 à l'époque, et qui est partie d'un principe très simple. Le film date de 52, donc le son était tout à fait acceptable, sauf que acceptable, c'est pas suffisant. Quand on est restaurateur, on fait pas « oui, oh, ça passera ». Non, non, on restaure ou on ne restaure pas. Et en l'occurrence, pour ce film, nous avons appelé l'association Chaplin en leur disant quels sont les éléments sonores que vous avez. Et ils nous ont dit, voilà, c'est très simple, il n'y a aucun élément magnétique, nous avons une vingtaine de négatifs sons et nous ne savons pas s'il y en a un qui est meilleur qu'un autre. Ils étaient tous en Angleterre, nous avons fait venir toutes les bobines numéro 2 de tous les éléments et nous les avons toutes comparées pour réaliser que l'une d'entre elles, une seulement, qui n'était plus utilisée depuis 1952, était en fait la source de toutes les autres, et c'est de celle-là que nous sommes partis, dont nous avons fait la meilleure lecture sonore possible, et sur laquelle il y avait pratiquement très peu de restauration à faire, puisqu'au fond, le meilleur moyen de restaurer un film, c'est de le retrouver dans l'état où il était à son origine.
Retrouver l'origine du son, ne pas le dénaturer, c'est évidemment l'objectif du restaurateur que vous êtes, Serge Brombert. Merci d'être venu parler de Charlie Chaplin, musicien, à l'occasion de cette exposition, hein, Charlie Chaplin, l'homme orchestre, qui dure encore jusqu'au 26 janvier à la Philharmonie de Paris. Une actualité peut-être vous concernant la reprise de vos ciné-concerts?
Non, surtout les coffrets Chaplin coédités avec Arte, Keystone, Mutual et SNA. Trois coffrets.
Les fêtes de Noël sont passées, mais si vous avez des cadeaux en retard, c'est évidemment...
Et Chaplin est éternel.
Chaplin est éternel. Merci beaucoup, Serge Brombert.